Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Pas de trêve pour Noël, sauf si le gouvernement revient à la raison. La CGT cheminots donne le ton ce matin, viscéralement contre la réforme des retraites annoncée hier et la fronde est généralisée. Désormais, même la CFDT appelle à manifester mardi prochain. Laurent Berger en guerre contre l'âge pivot des 64 ans, on va l'entendre dans un instant. À quoi joue Emmanuel Macron et le gouvernement? Ça c'est ce qu'on verra avec Yaël Gauz. Et puis nous serons à Saint-Denis, où tous les partis de gauche étaient réunis hier contre la réforme, réunion inédite depuis 1996. Avec vous Nicolas, deux invités ce matin. D'abord la porte-parole du gouvernement à 8h20.
Oui, Sibeth Ndiaye, le standard est ouvert, vous pourrez dialoguer avec elle, 01 45 24 7000. Et puis à 8h45, c'est le secrétaire général de l'UNSA, Laurent Escure, qui nous rejoindra ici en studio.
Dans ce journal aussi, des élections cruciale en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, Brexit or not Brexit, telle est toujours la question. Des milliards pour l'Europe du climat, le Green Deal, le plan vert de la Commission veut faire de l'Union le premier continent neutre en carbone en 2050. Roman Polanski qui conteste la dernière accusation de viol dont il fait l'objet. Et l'histoire d'un tableau de Klimt volé il y a 22 ans, on vient de le retrouver à l'endroit où il avait disparu.
France Inter.
Cette réforme n'est pas une bataille, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Édouard Philippe dans le texte hier pour cette réforme que le gouvernement veut voir entrer dans l'histoire. Mais l'histoire retiendra que ce jour-là, le gouvernement a perdu les réformistes, ces syndicats qui étaient pourtant d'accord avec la retraite universelle par points. Parce qu'avec cette réforme, il va falloir travailler plus, jusqu'à 64 ans pour toucher une retraite à taux plein. Hier soir sur TF1, Édouard Philippe n'a pas transigé sur ce point. En face sur France 2, Laurent Berger de la CFDT appelait ses troupes au combat.
Cette réforme, elle est insuffisante sur le fond, sur la pénibilité ou par exemple le minimum contributif, il faudra y travailler, mais elle est plombée par cet aspect d'économie qui va demander, il faut en prendre conscience, à partir de 2022, de travailler plus longtemps pour ceux qui comptaient partir en 2022. Donc la CFDT, elle veut que le gouvernement revienne en arrière sur cette mesure paramétrique, cette mesure d'économie, de faire travailler les gens plus longtemps dès 2022. Donc, nous appellerons les salariés le 17 à manifester avec nous.
La CFDT dans la rue, mardi prochain, sans doute avec la CFTC et l'UNSA, entrée en guerre contre l'âge pivot de 64 ans. Travailler plus ? Et pourquoi pas, dit cette salariée rencontrée à Tours. Elle est informaticienne, elle s'appelle Carole, elle a 44 ans.
Et oui, je suis concernée. Quand j'ai commencé à travailler il y a quelques années maintenant, je me doutais déjà que j'allais pas avoir beaucoup de retraite, voire pas de retraite du tout. Donc ça me perturbe pas plus que ça. Tous les autres pays européens autour de nous ont une retraite à partir de 67 ans. Donc je vois pas en quoi ça perturbe de se dire qu'on va devoir travailler plus pour payer les retraites de tout ce monde-là qui va partir en retraite d'ici là. Donc je comprends pas qu'on se mette aussi en colère pour des choses qui sont inéluctables. Une retraite à 64 ans, je trouve ça déjà pas mal par rapport à nos pays européens. Je pense que le plus important, ce serait d'avoir une justice sociale entre les retraités. Mais le fait de devoir travailler plus, ça me paraît normal.
La retraite minimum, là, ça serait 1000 euros net.
Ce serait bien, parce qu'on ne peut pas vivre avec... Je ne sais pas comment on fait pour vivre de façon décente avec moins, avec des retraites misérables. Quand on voit les agriculteurs, ce qu'ils gagnent à la retraite alors qu'ils ont travaillé toute leur vie, c'est pas possible.
Alors Carole, au micro de Jean Lebray, elle est d'accord pour travailler plus longtemps, ce qui tranche franchement avec la position de Laurent Berger, de la CFDT et des autres syndicats. Bonjour Yaël Gauz.
Bonjour Florence.
Serait-ce l'illustration, Yaël, de la stratégie du gouvernement qui voudrait jouer les syndicats contre l'opinion?
Oui, et c'est clairement un bouger dans l'acte 2, car jusqu'à maintenant, l'angoisse post-gilet jaune pour l'exécutif, c'était de se retrouver une nouvelle fois tout seul face à la rue en se passant des syndicats réformistes. Il n'y a plus d'alliés, à part le MEDEF, et on en revient au macronisme des débuts. Ce ne sont pas les syndicats qui font la loi, c'est nous. À Matignon, on observe les courbes encore hautes, mais déclinantes du soutien au mouvement social, les défilés plus clairsemés mardi, et maintenant, il s'agit de marteler les messages positifs de la réforme, comme la pension à 1000 euros, les femmes mieux protégées, ou la pénibilité étendue aux fonctionnaires. Mais à l'heure de la défiance, il faut des preuves, et l'exécutif met la pression sur Delevoye et ses équipes pour qu'un simulateur soit prêt dès la semaine prochaine. Problème, quelle en sera la fiabilité puisque le point, sa valeur, ne sont même pas encore définis dans la loi. Le calendrier politique, justement, Florence, c'est l'autre arme du gouvernement. Accélération avec si possible un vote en première lecture avant même les municipales.
Et de toute façon, ça va la perturber cette campagne des municipales.
Oui, mais c'est pas pour déplaire au président. Détermination à réformer, sérieux budgétaire, tout ça va conforter, c'est leur pari, un électorat de droite déjà séduit aux européennes. Et puis si les choses devaient mal tourner, il y a toujours une corde de rappel possible. Qui vient d'engager le bras de fer ? Édouard Philippe. Emmanuel Macron valide, bien sûr, mais ne s'expose pas. D'ailleurs, lui n'a jamais été très fan de cet âge pivot. Il s'y était même opposé, souvenez-vous, fin août, à la télé. Il n'y a pas de bataille, ni vainqueur, ni vaincu, disait hier Édouard Philippe. Bien sûr que si, et l'histoire n'est pas encore écrite.
Et d'ailleurs, sur l'âge pivot, Bruno Le Maire vient de dire qu'il y avait de la place pour la négociation. Bruno Le Maire, ministre de l'économie. En attendant la suite de cette réforme, son passage en Conseil des ministres devant le Parlement, les plus remontés sont dans leur ensemble sont les salariés des régimes spéciaux, les cheminots, les agents RATP qui appellent à amplifier la grève, y compris pendant les fêtes. Toujours aussi peu de trains, de RER, de métro à Paris aujourd'hui. Les policiers, de plus en plus énervés, tous pouvaient partir à la retraite à partir de 52 ans, ce qui ne sera plus possible pour ceux qui ont moins de 34 ans. Aujourd'hui, seuls les fonctionnaires confrontés au danger un certain nombre d'années conserveront leurs avantages. Hier, près d'un millier de CRS se sont donc fait porter pâle en signe de protestation. Témoignage à écouter sur franceinter.fr. Des questions se posent désormais sur l'organisation du maintien de l'ordre. Dans les jours qui viennent, les syndicats de police ont rendez-vous cet après-midi chez leur ministre, comme ceux des profs qui ont rendez-vous chez Jean-Michel Blanquer demain. Édouard Philippe leur a promis de sanctuariser leurs pensions en augmentant leur rémunération. Trop vague pour le SNUIPP, la FSU et les autres qui appellent à une forte mobilisation mardi prochain. Et puis dans la série diversification des actions, la CGT a installé plusieurs barrages routiers ce matin au Havre et à Rouen, provoquant de gros embouteillages, nous prévient France Bleu Normandie. Dans ce contexte, on se croirait revenu 23 ans en arrière. À l'époque, Jacques Chirac et Alain Juppé étaient aux commandes et hier, pour la première fois depuis 1996, tous les partis de gauche ont tenu un meeting commun du NPA à place publique, d'Europe Écologie Les Verts à la France Insoumise, en passant par Lutte Ouvrière, réunis à Saint-Denis pour demander l'abandon d'un projet injuste. Récit de la soirée avec Laurence Perron.
C'est Olivier Besancenot qui ouvre le tir en mode ironique.
Je tiens à remercier Édouard Philippe du fond du cœur d'être intervenu, puisque je crois qu'il a été vachement plus efficace que nous tous réunis pour donner un second souffle au bras de fer et à la mobilisation sociale.
Assez vite, tout le monde s'entend sur ce point. Il faut élargir la mobilisation. Guillaume Ballas pour Génération.
Il faut que maintenant les jeunes, ils se mobilisent absolument massivement.
Autre point d'accord, cette réforme serait un premier pas vers la retraite par capitalisation. Éric Coquerel, député de la France Insoumise.
Moi je pense que c'est une logique, c'est comment on gave le capital sur les revenus du travail.
Nathalie Arthaud, de Lutte Ouvrière, finit par tendre un peu le débat.
Mais pourquoi, à chaque fois que le Parti Socialiste ou que la gauche est au pouvoir, il n'y a pas d'argent ?
Réponse en mode douche glacée du patron du PS, Olivier Faure.
L'argent, ça tombe pas non plus du ciel.
Le nouveau chef des écologistes, Julien Bayou, propose une médiation.
Je trouve que ça aurait de la gueule d'être en mesure de présenter un contre-projet.
On se quitte finalement sur l'idée lancée par le NPA et reprise par le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel.
Nous pourrions nous retrouver sur un point de blocage où des salariés sont en grève.
Un soutien aux grévistes le 16, une mobilisation commune le 17 et la création d'un comité de liaison dès le 18 autour d'un mot d'ordre commun, retrait de la réforme des retraites.
Laurence Perron, sachez enfin, pour en finir avec ce dossier des retraites, que pour aider le secteur du tourisme pénalisé par les grèves en cette fin d'année, le gouvernement a décidé de réactiver les mesures de l'an dernier en plein mouvement des gilets jaunes. Les patrons de l'hôtellerie-restauration vont pouvoir étaler le paiement de leurs charges ou mettre leurs employés au chômage partiel. Les syndicats du secteur parlent de réservations en baisse de 30% dans les hôtels parisiens par rapport à l'an dernier.
France Inter, 8h09, Florence. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir au Royaume-Uni.
Élections législatives, élections capitales pour l'avenir. Les Britanniques ont le choix, soit Boris Johnson et un Brexit fin janvier, soit Jeremy Corbyn, son opposant travailliste, et un nouveau référendum. Avec nous à Londres, notre correspondant Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Antoine, voilà une élection qui ressemble à un nouveau référendum pour ou contre le Brexit ?
Absolument. Les analystes l'ont même mesuré. Quelle que soit leur sensibilité, leur attachement à des partis politiques, aujourd'hui, 75 à 80% des électeurs vont d'abord se positionner en fonction de leur opinion sur le Brexit. Soit ils vont voter pour le candidat d'une formation politique favorable au divorce, conservateur ou membre du parti du Brexit, soit ils vont soutenir un député qui réclame un deuxième référendum sur la sortie de l'Union européenne chez les travaillistes ou les libéraux démocrates. Conséquence, les conservateurs pourraient gagner des sièges traditionnellement à gauche dans le nord industriel de l'Angleterre et à l'inverse, ils pourraient perdre massivement des voix en Écosse, là où la population reste massivement opposée à la sortie de l'Union européenne. Au final, les instituts de sondage donnent quand même Boris Johnson et les conservateurs en tête, sans arriver à dire si le Premier ministre aura la majorité absolue. Le Daily Telegraph publie d'ailleurs ce matin un chiffre étonnant. Un électeur sur six se dit incertain et prêt à changer d'avis au cours de la journée.
Antoine Gignot à Londres pour France Inter. Merci. L'autre élection du jour, c'est la présidentielle en Algérie. La première depuis la chute de Bouteflika. Tous les candidats sont issus du Sérail et l'on s'attend à une participation particulièrement faible. L'Europe lancée contre le réchauffement climatique. Étape cruciale dans l'histoire de l'Union. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ne tarit pas de superlatifs pour parler de son pacte vert présenté au Conseil européen aujourd'hui. L'ambition est forte. On parle de verdir toutes les décisions européennes, ce que certains pays accepteront. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus difficile. Angélique Boin, ce premier Conseil européen depuis les élections s'annonce long et tendu.
On va y passer la nuit, prédit un habitué. Principal enjeu de ce sommet, se mettre tous d'accord sur la date de 2050 pour que l'Europe devienne le premier continent neutre en carbone. C'est l'objectif de la Commission. Mais pour cela, il faut encore convaincre trois pays, dont la Pologne, explique Pascal Canfin, le président de la Commission Environnement au Parlement européen.
Ils ont 80% de leur électricité qui est produite à base de charbon, d'où une proposition importante qui est d'avoir un fonds de transition juste, de façon à ce qu'on accompagne les Polonais et quelques pays d'Europe centrale et orientale à réduire la part du charbon dans leur production d'électricité sans avoir des grèves massives, sans avoir des gilets jaunes polonais partout.
Un fonds alimenté en partie par le futur budget pluriannuel sur lequel les 27 s'écharpent déjà depuis des mois. Budget largement amputé par le départ des Britanniques et dont 25% au moins devraient être écolo-compatibles pour tenir l'objectif de 2050. Certains États auraient par ailleurs bien voulu raboter la politique agricole commune pour financer les nouvelles priorités comme la sécurité ou la défense. Mais les agriculteurs, premières victimes des sécheresses ou des inondations, seront aussi parmi les plus impactés par nos ambitions climatiques, rappelle une source européenne. À Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Il est 8h12 quand Roman Polanski sort de son silence.
Il n'avait pas parlé depuis les dernières accusations portées contre lui il y a un mois de la part de la photographe Valentine Monnier qui a raconté qu'elle avait été violée par le réalisateur en 1975. Polanski s'en défend, Anne Chepeau, dans une interview donnée à Paris Match.
On veut faire de moi un monstre. Sans surprise, Roman Polanski nie les accusations portées contre lui par celle qui avait 18 ans en 1975. Le réalisateur dit se souvenir à peine de la jeune femme. Je n'ai évidemment aucun souvenir de ce qu'elle raconte puisque c'est faux, plaide-t-il. Il revient par ailleurs sur l'affaire Samantha Gaymer, cette adolescente américaine de 13 ans qu'il est accusé d'avoir droguée et violée en 1977. Et là, surprise, il accuse le producteur Harvey Weinstein au cœur du scandale MeToo d'avoir déterré cette affaire lors de la campagne pour les Oscars de 2003, avec un seul but, empêcher son film Le Pianiste d'être couronné. Si Polanski parle aujourd'hui, c'est dit-il pour sa famille. Je me suis habitué à la calomnie, mais pour mes enfants, pour ma femme Emmanuel, c'est épouvantable. Avant tout de même de concéder, bien sûr, je suis responsable. En 1977, j'ai commis une faute et c'est ma famille qui en paie le prix un demi-siècle plus tard.
Et on parle aussi des agressions sexuelles dans les VTC ce matin. Les témoignages se multiplient. Alors Marlène Schiappa convoque aujourd'hui les patrons d'Uber France dans son bureau de secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il faut mettre Uber face à ses responsabilités, dit Marlène Schiappa. Le protoxyde d'azote ou gaz hilarant vendu sous forme de cartouches pour les siphons à chantilly sera-t-il interdit de vente aux mineurs? Les sénateurs ont tous voté pour hier pour lutter contre cette mode qui se répand chez les jeunes. Ils inhalent ce gaz au péril de leur santé. Cette décision doit encore être validée par l'Assemblée nationale. nationale. Un mot de foot pour vous dire que le PSG a été impérial hier soir face à Galatasaray au Parc des Princes. 5-0 pour ce dernier match de poule avant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour lesquels les Parisiens étaient de toute façon déjà qualifiés. Rendez-vous maintenant pour le tirage au sort des prochains matchs et des prochains adversaires lundi. Enfin, voici l'incroyable histoire d'un chef-d'œuvre dérobé en Italie il y a 22 ans et retrouvé sur les lieux mêmes de son vol au musée d'art moderne de Piacenza entre Parme et Milan. Ce tableau, c'est le portrait d'une dame de Gustav Klimt et cette histoire nous est racontée par Bruce de Galzin.
Il a ouvert une trappe cachée par du lierre dans un mur du musée. C'est un jardinier qui a découvert alors un sac poubelle noir dans lequel se trouvait un portrait. Il est analysé, mais beaucoup imaginent déjà qu'il s'agit du portrait d'une dame, de Klimt, volé en 1997 dans ce même musée. Cette œuvre est la plus recherchée au monde après la nativité du Caravage, selon le maire adjoint à la culture de Piacenza. Une œuvre entourée de mystères. Ce n'est qu'un an avant sa disparition que l'on découvre que Klimt a peint ce portrait sur un autre portrait, ce qui en fait le seul double portrait du peintre. Elle est volée juste avant une grande exposition censée la mettre en valeur. Un an plus tard, elle est retrouvée à Vintimille dans une enveloppe destinée à l'ancien premier ministre italien Bettino Craxi, mais il s'agira d'un faux. Et voilà que ce portrait d'une dame pourrait donc n'avoir jamais quitté le musée de Piacenza. Enfin, pas si sûr, car la marque du sac poubelle dans lequel elle a été retrouvée n'est apparue à Piacenza que 8 ans après la disparition du portrait. À Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Et c'est sur ce délicieux mystère que s'achève le journal de 8 heures.
Merci Florence Paracuelos.